Georges Villon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 15 janvier 2024. Au Burkina Faso, enlèvement du lieutenant-colonel Evra Somda, ex-chef d'état-major de la gendarmerie. Aux Comores, tension au lendemain d'un scrutin contesté par l'opposition. En République démocratique du Congo, le parti du président Tshisekedi remporte les élections législatives.
Alors l'IDPS a près de 70 sièges et les partis affiliés à l'IDPS, l'IDPS et ses partis affiliés vont jusqu'à plus de 100 sièges à eux seuls.
Fred Bauma, directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli à suivre dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, l'Amérique marque ce lundi le MLK Day en souvenir de Martin Luther King. Début des primaires républicaines à l'Iowa, Donald Trump grand favori. Tensions diplomatiques entre Taipei et Pékin après la présidentielle sur l'île de Taïwan. Et ne manquez pas l'édition spéciale Cannes 2023. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, fait une entrée convaincante en écrasant la Gambie 3-0. Bonjour à tous. Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Début réussi pour le champion en titre. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont dominé 3-0 les Scorpions de la Gambie au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Le Cameroun fait en ce moment face à la Guinée. L'autre match de la poule C, le score est de 1-1. À la 67e minute de jeu, un peu plus tard, à 20h, temps universel, l'Algérie va débuter sa compétition devant l'Angola. Direction maintenant Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Yacouba Ouedraogo et Bakassi Koura pour le journal de la CAN.
Bonsoir à tous et bienvenue ici dans la capitale économique ivoirienne d'où Bakassi Koura et moi Yacouba Ouedraogo vous présentons ce journal de la CAN. Cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein depuis samedi. Entre la Côte d'Ivoire qui a bien entamé sa compétition, le Nigeria et l'Égypte accrochés d'entrée, le Ghana battu, cette CAN s'annonce indécise. Le point des matchs de la première journée des poules A et B avec Bakassi Koura.
Oui, trois grosses sensations dimanche. Les requins bleus du Cap-Vert ont dévoré les Black Stars du Ghana, quatre fois champions d'Afrique, 2-1. Les Cap-Verdiens prennent ainsi la tête de la poule B devant l'Égypte, septuple championne, tenue en échec par le Mozambique, 2-2. Un peu plus tôt dimanche, c'est le Nigeria qui a concédé le nul, 1-2 face à la Guinée équatoriale. Pour l'ancien international ivoirien Salomon Kalou, ses résultats donne le ton de cette CAN.
Moi, j'ai vu la Guinée équatoriale jouer la CAN passée. C'est une équipe technique, c'est une équipe difficile à jouer. Donc, il n'y a pas de petite équipe maintenant. Je pense que, on l'a déjà vu dans certains matchs. Les matchs se jouent sur un terrain de football et non pas le palmarès ou les joueurs qu'on a dans son équipe.
Samedi en ouverture, devant près de 37 000 spectateurs dans un stade d'Ebimpe qui a une capacité de 60 000 places, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont donné le ton de cette 34e édition de la CAN, 40 ans après la dernière organisée par les Ivoiriens en 1984. Sous pression, ils ont vite trouvé le chemin des filets dès la 4e minute par Seko Fofana pour finalement battre les Djourtous de la Guinée-Bissau 2-0.
Je pense que c'est, il faut être réaliste. On est dans une compétition où chacun a son coup à jouer. Donc il n'y a pas d'équipe en nul, il n'y a pas d'équipe faible. Il ne faut pas manquer d'occasion de but. Je pense que c'est le plus important. Et il faut continuer de pousser la Ivoirie.
Ah, je suis heureuse, j'ai aimé. Ils ont fait l'effort, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. 2-0, c'est pas mal. On va les encourager.
Ils ont mérité cette victoire. Je suis vraiment content. On va les encourager pour que le prochain match puisse battre.
Je préfère voir une équipe ascendante qui ne prend rien d'autre qui descend. Donc je pense qu'il y a des corrections à faire, il y a des réglages à faire. C'est pourquoi dès qu'on a une occasion, il faut profiter et puis régler certaines choses.
Parmi les invités au stade d'Ebimpe, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis Barr.
C'était extraordinaire. C'était extraordinaire pour moi et pour toutes. Notre équipe ici à l'ambassade des États-Unis et aussi pour tous les Américains, pour connaître la Côte d'Ivoire, pour connaître la CAN, pour connaître l'Afrique. En fait, c'est clair qui va gagner. Allez les éléphants.
Et dans le cadre de cette CAN, les États-Unis ont envoyé des stars de basketball et de football ici en Côte d'Ivoire pour un partage d'expérience. Crystal Dunn, joueuse de football du club de Gotham FC et de l'équipe nationale féminine américaine, championne du monde 2019 et deux fois championne olympique, a suivi le match inaugural Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau.
Je suis évidemment du milieu du football. J'aime vraiment le jeu quand je sens que les équipes sont en première ligne. On avait l'impression qu'elles n'avaient pas peur et qu'elles étaient vraiment portées par le poids du pays et par les fans dans les tribunes. C'était donc merveilleux à regarder. Marquer deux buts, évidemment, lors du match d'ouverture, c'est un exploit incroyable parce que nous connaissons la Coupe d'Afrique des Nations.
Après des débuts compliqués pour certaines équipes annoncées favorites, cette CAN Côte d'Ivoire 2023 promet des surprises.
Merci, Bagassi. Cette première journée de la phase de poule se poursuit demain mardi. Le Burkina Faso fait son entrée en lice face à la Mauritanie à Bouaké. En conférence de presse d'avant-match, le capitaine des étalons soutient que son pays fait partie des favoris de cette CAN.
C'est un peu trop facile de venir s'asseoir à commencer à citer les équipes favorites pour la CAN. Nous, on a un objectif, on vient ici d'arracher enfin cette victoire. On respecte tout le monde, mais on n'a pas perdu quelqu'un. Et je pense qu'on vient ici pour essayer de ramener cette coupe à la maison.
Bertrand Traoré, capitaine du Burkina Faso au micro des cadets Traoré, notre envoyé spécial à Bouaké. Toujours demain, le groupe E entre en compétition. Le Mali affronte l'Afrique du Sud à 20h temps universel, mais bien avant, la Tunisie fait face à la Namibie à 17h temps universel. C'est la fin de ce journal de la CAN. Merci à vous de l'avoir suivi. Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.
Et Cameroun-Guinée, le duel se poursuit au stade Konambani de Yamoussoukro à la 74e minute de jeu. Le score est toujours de 1-1. Restez sur VOA Afrique. Bonsoir à tous. Jean-Roger Billon en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. L'ex-chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Evra Somda, a été enlevé dimanche à son domicile de Ouagadougou par des individus armés, selon une source proche de l'officier. Les précisions avec Deli Diko.
Ils ont bouclé le quartier, encerclé son domicile avant de procéder à son arrestation, a déclaré une source sécuritaire proche d'Evra Somda, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie. On ne sait pas s'il s'agit d'une arrestation sur ordre des autorités militaires ou judiciaires ou s'il s'agit d'un énième enlèvement, a ajouté une autre source. Cette même source a précisé qu'il n'a opposé aucune résistance et a suivi les hommes venus le chercher pour l'emmener vers une destination inconnue. Limogé en octobre après l'interpellation de quatre officiers, dont deux de ses anciens proches collaborateurs, soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, le lieutenant-colonel Evrard Somda ne quittait presque plus son domicile, selon ses proches. Plusieurs cas d'enlèvement ont été rapportés ces derniers mois par des sources locales à Ouagadougou. Fin décembre, Ablassé Ouédraogo, ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, a été enlevé par des individus disant appartenir à la police nationale, selon son parti politique, le FASO autrement.
Le président sortant du Libéria, George Weah, a affirmé n'avoir aucune intention de se représenter à la tête de son pays, tirant un trait définitif sur la présidence après sa défaite électorale il y a deux mois, rapporte aujourd'hui la presse locale. L'ex-star du football, élu président en 2017, mais battu en novembre 2023 par Joseph Boakai, à qui il laissera officiellement la place le 22 janvier, s'est exprimé sur son avenir auprès de fidèles à l'occasion du service religieux de l'Église que fréquente ce chrétien évangélique en dehors de la capitale Monrovia. Les Comoriens ont voté dimanche lors de l'élection présidentielle. Le président sortant Azali Assoumani se disant confiant dans sa victoire. L'opposition, elle, dénonce des fraudes électorales. Le point avec Rosine Monezero.
Plusieurs personnalités de l'opposition de l'archipel de l'océan Indien avaient exhorté les électeurs à boycotter le scrutin dans lequel cinq candidats se présentaient contre M. Assoumani, âgé de 65 ans. « Nous sommes convaincus que je gagnerai le premier tour. C'est Dieu qui décidera et le peuple comorien », a déclaré le président après avoir voté dans sa ville natale de Missoudié. Mais les candidats de l'opposition ont dénoncé des fraudes et des bourrages d'urnes dans plusieurs localités après un début de scrutin retardé. Comme en 2019, nous assistons à une fraude électorale d'Azali Assoumani avec la complicité de l'armée, a déclaré Mouigni Baraka Saïd Swalihi lors d'une conférence de presse. Le dépouillement a commencé dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote. Près de 340 000 personnes pouvaient voter dans ce pays à majorité musulmane et dont 45% des quelques 900 000 habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale. Si aucun candidat à la présidence ne l'emporte haut la main, un second tour est prévu le 25 février.
L'île Maurice a connu de premiers dégâts ce lundi à l'approche du cyclone Belal, avec des voitures emportées par les eaux, des bâtiments inondés et un front de mer submergé par les vagues. Le niveau d'alerte sur l'île a été relevé aujourd'hui à 3 sur 4 possibles, quelques heures après que l'œil du cyclone a touché l'île voisine de la Réunion, faisant un mort. Après un communiqué du gouvernement, de nombreux salariés et fonctionnaires ont quitté leur travail à la mi-journée, mais se sont retrouvés pris au piège dans des rues inondées. Dans les prochaines heures, des pluies torrentielles et des rafales de vent pouvant atteindre 110 km/h sont attendues, ont indiqué les services météorologiques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les Américains observent aujourd'hui le Martin Luther King Day. Il s'agit d'un jour férié fédéral marquant l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Il est commémoré le troisième lundi de janvier de chaque année. Les précisions avec Mamadou Moufa.
Le MLK Day est l'occasion de revisiter l'œuvre du célèbre pasteur noir à travers des marches et différents types de rencontres. C'est aussi l'occasion pour les Américains de faire du bénévolat. C'est d'ailleurs dans ce sens que le président Joe Biden est actuellement en Pennsylvanie pour faire du bénévolat auprès de Philabundance, une banque alimentaire à but non lucratif qui dessert les régions de Philadelphie et de la vallée du Delaware en Pennsylvanie. L'objectif déclaré de l'organisation est d'éliminer la faim. Pour sa part, la vice-présidente Kamala Harris est à Columbia, en Caroline du Sud, aux côtés du chef des démocrates de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. Elle prendra la parole en marge d'une procession vers la Chambre des représentants de Caroline du Sud. En cette année électorale, elle devrait, selon son cabinet, s'appuyer sur l'héritage de Martin Luther King, icône des droits civiques, pour convaincre les électeurs afro-américains de rejoindre les démocrates pour remporter les élections de 2024. Pour rappel, Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, avait été assassiné en 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Pasteur baptiste, il aura été un militant non violent du mouvement américain des droits civiques et fervent militant pour la paix et contre la pauvreté.
Le président élu de Taïwan, Lai Ching-te, remercie les États-Unis pour leur soutien lors d'une rencontre ce lundi avec une délégation américaine. Pékin a réagi immédiatement pour s'opposer à tout échange officiel entre Taipei et Washington. Eric Manirakiza.
Je suis reconnaissant envers les États-Unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise, a déclaré Lai Ching-te 2 jours après son élection. Nous sommes ici pour vous adresser ainsi qu'au peuple taïwanais nos félicitations pour les élections présidentielles et législatives, a déclaré l'ancien conseiller à la sécurité nationale Stephen Hadley. Un peu plus tôt, la délégation américaine présentée comme informelle avait rencontré la présidente sortante qui a salué une visite très significative. En réaction, Pékin s'est dit fermement opposé à tout contact officiel entre Taïwan et les États-Unis, de quelque manière que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit. En 2016, Washington avait déjà envoyé une délégation informelle à Taïwan après un scrutin présidentiel. Lai Ching-te, 64 ans, prendra ses fonctions le 20 mai aux côtés de sa vice-présidente Chiao Bikin, ancienne représentante de Taipei à Washington. Promettant d'être du côté de la démocratie, le président élu prévoit aussi de poursuivre les échanges et la coopération avec la Chine, le premier partenaire commercial de Taïwan.
Vous suivez VOA Afrique. Dans un instant, la page magazine de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la coalition tshisekédiste au pouvoir rafle près de 90% des sièges pour la prochaine Assemblée nationale, selon les résultats des législatives publiées hier. Mais des membres de cette famille politique dénoncent des fraudes et des nominations. Edi Sango a joint à Kinshasa Fred Bauma, le directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli.
Le plus grand constat, évidemment, c'est que l'Union sacrée a raflé une très large majorité avec plus de 400 élus qui appartiennent à l'Union sacrée. Jusque-là, il semble que l'opposition ou le parti qui s'était inscrit comme membre de l'opposition n'ont obtenu, selon le chef de la CENI, que près de 30 élus. Alors, ces résultats sont partiels, évidemment, et devront être confirmés par la Cour constitutionnelle, mais ça confirme un peu la tendance qu'on observait d'une grande majorité par la coalition au pouvoir.
Donc, ça veut dire que la prochaine Assemblée nationale sera entièrement dominée par l'Union sacrée et surtout par l'UDPS, qui a combien de sièges déjà?
Alors, l'UDPS a près de 70 sièges et les partis affiliés à l'UDPS, l'UDPS et ses partis affiliés vont jusqu'à plus de 100 sièges à eux seuls. Donc, c'est la coalition ou le parti le plus important de l'Union sacrée. Maintenant, je pense que si on suit la politique congolaise, la question d'où ça va permettre évidemment de discuter la répartition des postes des différentes institutions et des gouvernements plus tard. Et évidemment, je pense que l'IDPS va devoir peser lourd, mais à côté de l'IDPS, on voit quand même un retour de l'INC qui sont avec beaucoup de députés.
L'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe.
La Nation Congolaise de Vital Kamerhe. On voit l'AFDC de Bahati qui sans surprise, a récolté également beaucoup de députés. Mais on voit aussi surtout des nouveaux partis politiques qui arrivent à engager des voix, beaucoup de députés. C'est comme la VRP de Mouindo Nzangi, qui est un parti assez jeune.
Beaucoup de partis et même d'indépendants ont été éliminés, même s'ils ont eu beaucoup de voix, à cause du seuil des représentativités quand même.
Oui, alors il y a les seuils qui étaient fixés à 1%. N'a pas été atteint. Certains partis même qui voient des grands noms de la politique congolaise ne pas être représentés. C'est le cas notamment du parti de Délicier Sanga ou bien le parti de Matata qui n'a pas non plus, l'ancien premier ministre Matata Ponyo qui n'a pas atteint les seuils selon la commission électorale. Je pense qu'il y a finalement beaucoup de questions qui devront se poser après ces élections sur les types de réformes à faire, d'une part pour permettre à clarifier comment le paysage politique s'est défini.
Fred Bauma, directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli. On reste en RDC. Le fleuve Congo a quitté son lit, occasionnant beaucoup de dégâts. Le centre météorologique vient de déclarer que les eaux commencent à baisser. Au micro d'Antoine Bolamba, le ministre des Affaires humanitaires et de la Solidarité nationale, Modeste Moutinga, fait l'état des lieux et annonce des mesures prises par le gouvernement pour venir en aide aux sinistrés.
L'état des lieux est une catastrophe qui n'a pas de précédent. Depuis 1961, c'est la première fois que la République démocratique du Congo enregistre une telle calamité due au changement climatique d'une part et aux pluies diluviennes et glissements de terrain qui se sont produits à partir de tous les affluents du fleuve Congo, en amont et en aval. Il y a eu beaucoup d'eau et le fleuve est sorti de son lit. Il y a eu beaucoup de maisons écroulées, il y a eu beaucoup d'écoles inondées, il y a eu beaucoup de centres de santé détruits, et il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et des écoles complètement abîmées. La situation est vraiment difficile.
Les gens qui ont vu les images parlent aussi quelque part des constructions anarchiques, mais vous pouvez aussi nous dire un peu les provinces qui sont les plus touchées.
En fait, en faisant l'examen de la situation au niveau du Conseil des ministres, le président de la République a, dans sa communication, déploré les irrégularités, l'anarchie et l'irresponsabilité de l'administration publique qui a donné les autorisations de bâtir à tout le monde au bord du fleuve et des rivières, même là où il était interdit de construire.
Alors, vous pouvez nous donner aussi une idée un peu des dégâts matériels et humains qu'il y a eu.
Les dégâts matériels sont très importants. Dans la mesure où on parle de centaines de maisons écroulées, de centaines d'écoles inondées et des centres de santé engloutis. Il y a même les marchés publics qui n'existent plus et la situation est vraiment catastrophique.
Modeste Motinga, ministre des Affaires humanitaires et de la Solidarité nationale de la RDC.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Après le train express régional, Dakar étrenne son bus rapide de transit d'un coût estimé à 300 milliards de francs CFA. Ce nouveau mode de transport de masse va sensiblement changer la physionomie de la capitale sénégalaise en termes de mobilité. Dakar, connu pour ses embouteillages monstres, abrite près d'un quart de la population sénégalaise. Suivez ce reportage de notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou.
121 bus 100% électriques, 14 communes desservies et près de 3000 passagers chaque jour. Le bus rapide de transit inauguré dimanche va grandement contribuer à l'amélioration de la mobilité à Dakar. Une véritable révolution dont se réjouissent les habitants de la capitale sénégalaise. La circulation est un véritable casse-tête à Dakar. Les routes sont étroites, c'est pourquoi le BRT va changer beaucoup de choses. Il va rendre la circulation beaucoup plus fluide parce qu'on perd énormément de temps dans les embouteillages.
Ça va améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Parce que vraiment, on avait des problèmes de déplacement en quittant la rue pour venir à Dakar ou bien pour quitter Dakar vers la banlieue. Donc je crois bien que ces deux grands projets structurants de son excellence, le président Macky Sall, va forcément avoir un impact social sur la population de Dakar.
Avec le train express régional TER, le bus rapide de transit est présenté par les autorités sénégalaises comme une solution durable à la congestion routière de Dakar, le président Macky Sall.
Nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain.
D'un coût estimé à 300 milliards de francs CFA que certains critiques du pouvoir estiment trop cher, le BRT s'inscrit dans les projets du gouvernement sénégalais de doter Dakar d'un réseau de transport collectif de qualité. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Alors que les démocrates passent au vote par correspondance dans l'Iowa, avec le président sortant Joe Biden comme probable vainqueur, les républicains occupent le devant de la scène lors des assemblées électorales où les partisans se réunissent en personne pour choisir leur candidat à l'investiture républicaine. Davantage avec Ken Farabao, le récit est de Ginny Niwa.
D'abord la neige, puis un froid glacial ont empêché la tenue d'événements de campagne dans l'État de l'Iowa le week-end précédent le caucus de ce 15 janvier. L'ancien président Donald Trump a annulé la plupart de ces événements en personne. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a également déplacé un grand nombre de ces événements en ligne. Carson O'Dell, électeur républicain.
Les personnes non passionnées resteront chez elles et les personnes passionnées viendront.
Le mauvais temps n'a pas empêché Carson O'Dell d'assister à l'un des rares événements en personne que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n'a pas annulé. Cheryl Whiteside a également bravé la tempête de neige pour écouter le discours de campagne de DeSantis.
Au début, ce n'était pas si terrible. Je ne sais pas, nous sommes tellement habitués à cela.
Madame Whiteside, qui préside un groupe républicain local, explique qu'il est important pour elle d'assister physiquement à un événement parce qu'elle ne sait toujours pas qui soutenir ce lundi soir lors des assemblées électorales.
Je ne le saurai probablement pas avant ce soir.
Il s'agit de la neige la plus abondante et des températures les plus froides que l'Iowa ait connues depuis de nombreuses années à l'occasion d'un caucus. Et la question est donc de savoir dans quelle mesure cela aura un impact sur la participation. Timothy Hagel est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Iowa.
L'inconnu ici est de savoir dans quelle mesure les partisans des différents candidats vont se rendre aux urnes. Les partisans de Trump, lui seront-ils vraiment aussi fidèles et loyaux que tout le monde le croit?
Tim Hagel estime que si les sondages se traduisent par une forte participation, il sera plus difficile pour les autres républicains de détrôner Trump ce soir et cela limitera leur capacité à prendre de l'élan au-delà de l'Iowa.
Si Trump a toujours 30 points d'avance ou peut-être même plus, il semble assez improbable que DeSantis ou Haley soient en mesure de le battre ou même de s'en approcher parce que, dans une certaine mesure, il divise le vote anti-Trump.
Hagel ajoute que les sondages montrent également que les problèmes juridiques de Trump n'ont pas entamé son soutien.
Il a été inculpé dans 4 endroits différents. Il a un procès civil en cours à New York, il a un procès en diffamation en cours là-bas aussi, des États essaient de l'exclure du scrutin. Tout cela signifie, aux yeux de beaucoup de ses partisans, qu'il le persécute politiquement et donc il y a un rassemblement autour de l'effet principal qui est en train de se produire.
Mais il y a des signes de fatigue parmi les électeurs de l'Iowa. John Frank, policier à la retraite, a déjà soutenu Trump, mais pas cette année.
Il prend de l'âge, tout comme Joe Biden, et nous devons en tenir compte. Et il n'a jamais appris au cours de sa vie, en particulier de sa vie politique, à se taire.
Frank dit qu'il va voter pour DeSantis. D'aucuns estiment que la participation est essentielle, alors que les électeurs républicains de l'Iowa se réunissent ce lundi, en personne, pour voter pour le candidat de leur choix.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA.